Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanettetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettetrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Germain, merci d'avoir accepté l'invitation que je t'ai faite. Comment vas-tu ?
Eh ben, salut Bernard, salut François, pardon. Eh ben, écoute, eh ben, ça va très bien pour le café de 20h30, le fameux. Voilà. Je l'attends.
Ok, super. Alors, pour la petite histoire, on était en train de parler vélo juste avant parce que mon nom de famille est Ino et donc voilà. Donc, voilà pour la petite histoire avec Bernard. La question traditionnelle avant de vous présenter l'émission, Germain, la question traditionnelle de cette émission, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
Ah oui, alors d'accord, je sais pas
préparé,
si on...
Hein.
Ouais, je sais pas si on veut vraiment. Bon, entendre ça, oui, mais le voir, c'était pas très beau. Je pense que je me serais fait arrêter par la brigade du style, à mon avis, parce que c'était assez dégueulasse. Ok. Alors, je dirais que c'est... Alors, je suis un doute sur la date, mais je crois que c'est 2011. J'avais un pote à l'époque qui m'avait dit, ouais, il faut que tu fasses du trail, c'est vraiment sympa. Moi, à l'époque, j'étais plus dans le vélo. Déjà, je commençais à me blesser pas mal en vélo. Du coup, le trail, je me suis dit, bon, bah là, normalement, je vais commencer à me blesser assez sérieusement. c'était 20 km, je crois. Donc, c'était quand même pas anodin. Et c'était le trail du Moulinet.
D'accord. Un joli nom.
Un joli nom dans les Alpes-Maritimes 06, au-dessus de Sospel, au-dessus de Menton, carrément. Et du coup, bah ouais, comme je faisais du vélo à l'époque, j'ai couru en maillot de vélo. Avec les poches à l'arrière, voilà. Et puis voilà, j'avais pris mes gels de vélo, hein, et puis voilà, j'ai fini complètement explosé. Mais du coup, ça m'a plu. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai continué. Mais c'est vrai que c'était une découverte assez sympa. Et puis forcément, parti trop vite. Enfin, toutes les erreurs classiques, hein, je les ai toutes cochées, quoi.
Ok, ça marche. Donc en 2011, premier trail de 20 km. Et donc suite à ça, tu t'es dit, juste après, tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit le fameux plus jamais ou tu as renchaîné tout de suite et puis c'était parti pour l'aventure?
Je crois qu'il y a eu un laps de temps quand même. Il y a eu quelques mois où j'ai continué à courir comme ça un petit peu. C'était une époque où en fait, moi, avant, je faisais du vélo et bon, je me suis blessé. Et c'est cette époque où, bon, forcément, je pouvais plus trop faire de vélo. Et j'ai basculé dans la course à pied. En même temps, je finissais mes études. Donc, pas trop de temps. Je venais du vélo où je m'entraînais beaucoup en volume. Et la course à pied, ça m'allait bien parce que au bout de 45 minutes à une heure, j'étais complètement explosé.
D'accord.
Du coup, je me suis dit, c'est sympa comme sport. En fait, très, très rapidement, ça n'allait pas, quoi. Donc, bon, j'avais un peu le physique, mais j'avais pas du tout le châssis, quoi. Du coup, très rapidement, je me blessais. Et donc, petit à petit, ouais, j'ai laissé passer quelques mois où je faisais peut-être des petites courses, tu vois, des verticales, des trucs comme ça. Et ouais, bon, il y a eu quand même 2012, 2013 ou 2014 où ouais, j'ai pas fait bien plus que 20 km. À chaque fois, j'avais des problèmes, j'avais des TFL, des trucs comme ça. Ouais, j'ai mis un bout de temps.
Tu fais pas partie de ces coureurs élites qui ont été bons tout de suite.
Non, non, non. Non, 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 parce que la course à pied, c'était vraiment. Bah, tu sais, quand t'as toujours. Bah, j'ai commencé par le ski, un sport porté, le ski de rando, sport porté, le vélo, sport porté, le VTT, pareil. Et je pense que. Ouais, j'avais pas vraiment le physique du coureur et surtout pas, zéro technique, en fait. Les seuls trucs que j'avais fait avant, c'était des marches l'été en montagne et des descentes où je trottinais avec des chaussures de marche, quoi. Mais rien de fou. Donc forcément, quand tu te mets à courir, y a rien qui tenait, quoi.
Ok,
Du coup, au
ça
début,
marche.
ouais, je faisais 10 bornes, j'avais des tendinites à tous les genoux, quoi. Je sais pas comment ils font, les gens. Du coup, mais c'est assez récurrent, ça. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais été très fort dès le début, quoi. J'en ai
Ok, donc
toujours
en fait,
chié.
t'es un gros bosseur quoi, pour en arriver au niveau où t'es maintenant. Tu as dû passer par. Enfin, du coup, tu peux dire que la génétique chez toi, ça fait pas tout, quoi. T'es l'exemple
Non,
de.
non, ça fait pas tout. Ouais, non, je dis clairement, j'ai pas vraiment un gros moteur. On va dire que maintenant, je le connais mieux.
Ouais.
Donc, du coup, j'arrive un petit peu à l'ajuster. Mais non, j'ai pas un gros moteur et physiquement, au début, j'étais assez fragile. Donc, c'est vraiment sur le tas et en essayant d'analyser les trucs que j'ai réussi à optimiser. Mais au début, non, c'est pas du tout un déclic ou c'est pas du tout venu comme ça, quoi.
Ok, ça marche. Alors, pour rappel de tous ceux qui, pour tous ceux qui découvrent l'émission Café Trailer qui se déroule le soir, le principe, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions à Germain durant toute l'émission pendant 1 heure. Et on a, du coup, une des anecdotes ou une des traditions, une des choses qui se passent chez toi, c'est que tout le monde t'appelle Serge. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tout le monde t'appelle Serge?
Serge, bah, en fait, c'est avec un pote, Julien Jorot, là, qui habite dans les Pyrénées, que j'ai rencontré dans l'intermédiaire du Team Garmin, où j'ai un petit peu fait mes débuts dans le trail. Et en fait, ça vient du fameux Serge le Mytho, qui était une web série à l'époque, où en gros, bah, c'est un personnage qui raconte constamment bah, des mythos qui se prend pour celui qui n'est pas, etc. Et du coup, c'est vrai que chaque fois qu'on discute ou qu'on se dit, bah, tiens, j'ai fait tel entraînement, à telle vitesse ou tel machin, voilà, on serait toujours de Serge parce que forcément, voilà, on se prend pas au sérieux. Et petit à petit, c'est un truc qui m'a collé à la peau parce que voilà, j'ai toujours un petit peu ce second degré, forcément, qui est ma nature d'être. Et voilà, surtout en termes de communication, j'aime bien me mettre dans la peau de ce personnage parce que au moins, j'ai pas l'impression de toujours parler de moi. Et voilà, je me mets en scène un peu à travers ce personnage qui existe pas trop, quoi, mais qui est complètement, ouais, qui est complètement mytho, ouais, sur tout, quoi, sur l'entraînement, sur la course, surtout.
Ok, parce que toi, la médiatisation, le truc qui va tout autour du fait d'être bon, d'être un élite en trail, ça te va pas trop, ça te correspond pas trop?
Non, bah, je suis entièrement conscient que de nos jours, il faut vraiment, on va dire, faire le job, entre guillemets. Et communiquer, mais bon, voilà, c'est ma façon à moi de communiquer parce que voilà, il faut se remettre un peu en question et ce qu'on fait, c'est bien, mais voilà, j'aime bien, entre guillemets, faire passer des choses à travers ce personnage qui, des fois, sont des choses que je pense ou des fois qui sont des choses pas du tout que je pense, mais voilà, c'est vrai que au final, quand on fait du sport, quand on remet ça un petit peu en perspective et tout ce qu'on construit, voilà. Des fois, Voilà, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, non. Voilà, c'est l'histoire de mettre des fois un petit peu en perspective à travers des blagues ce qu'on fait. Comme je disais la fois dernière, faire du sport de façon déraisonnée, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on essaye de s'entraîner de façon raisonnée, quoi. Donc, en gros, on fait quelque chose en s'entraînant pour l'ultra totalement déraisonnable, mais on croit qu'on s'entraîne bien et on croit que c'est raisonné, quoi. Donc, en fait, ouais, on fait n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien toujours remettre en question, j'aime bien remettre en question les choses et mettre en perspective. Et avec ce personnage, c'est vrai que
C'est
j'aime
vrai, c'est
bien faire ça, ouais.
intéressant ça, ce que tu dis, parce que le trail, enfin, on est tous passionnés. Y a, enfin, du moins, tous ceux qui sont en train de regarder là, la grande majorité, c'est une passion, le trail. Et on a tous un petit peu cette envie aussi d'aller explorer nos limites, aller peut-être aller chercher un petit peu plus loin, toujours. Et pour autant, on a très peu de recul sur sur le fait de savoir si c'est bon ou pas pour notre santé, vraiment à long terme. On a très peu de recul encore là-dessus. Encore plus du coup en étant élite parce qu'on pousse le truc jusqu'à la fin quoi. Et toi, comment est-ce que tu le vis ça, le fait de ne pas savoir vite finalement si cette pratique qu'on a est bonne ou pas?
Ouais, ben voilà, je suis carrément d'accord avec toi. On a vraiment peu de recul. On n'a pas encore une génération de. Ben là, c'est en train de se faire de jeunes qui commencent à s'entraîner pour vraiment viser le sport trail. Pour l'instant, je veux dire, des gens qui ont 25 à 40 ans, on vient tous d'une discipline ou d'un univers complètement différent, que ce soit le vélo, la montagne. Le ski de fond, l'orientation, ben, j'en passe, hein. Et on a tous convergé vers ce point-là. Au final, et voilà, on arrive avec nos backgrounds et on dit, bon, ben là, moi, je viens de là, du coup, je suis nul en plat, du coup, je m'améliore en plat. Moi, je viens plutôt de la piste, du coup, je m'améliore en montagne. Et là, voilà, on va arriver avec des gens qui vont arriver avec cette palette qui sera déjà développée de base. Et bon, déjà, au niveau de performance, ça va complètement changer la donne. Et c'est vrai que nous, ouais, là, on est complètement en autodidacte, quoi. On fait de la peinture, quoi. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'aime bien dire, voilà. Donc, on n'a pas de recul. Ok, bah, alors, tu t'entraînes 120 km par semaine, et lui, il en fait 200, mais moins dénivelé. Moi, je fais plus de ski, lui, il fait plus de ça. Donc, on est vraiment à chacun à trouver sa recette. Et c'est pour ça que, voilà, on fait. On croit savoir, voilà, on ne sait rien, honnêtement. On ne sait pas, hein, dans 10 ans s'il faut, on a plus, même dans 5 ans, plus personne n'a de cartilage. On ne sait pas. Voilà.
Et
Donc,
toi, tu es accompagné justement pour préparer tous tes objectifs ou tu fais ça un petit peu à ta sauce au
au niveau du
feeling?
cartilage?
T'as
Non,
un ortho qui te suit?
Non, ben non, justement, oui, je suis accompagné par Organic Coach qui est, ça fait 5 ans maintenant, qui est bon, Nicolas Lebrun qui lui faisait du Xterra, qui est la version un petit peu nature du triathlon, et bon, qui a toujours vécu en montagne, donc il a un petit peu ce côté montagne, ski dans le dos, etc. Bon, voilà, nous, il y a un super bon feeling, mais on est carrément conscient que voilà, ce qu'on fait, ben, c'est voilà, on essaye de partir de choses qui marchent, de choses qui sont prouvées, et après, surtout sur une discipline comme le trail qui est extrêmement difficile à cadrer. C'est-à-dire, on n'a pas de distance fixe, on n'a pas de. C'est-à-dire, chaque course est différente, les ravitaux changent, la météo change, le terrain change, la distance change, d'une année à l'autre, c'est totalement différent. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous plaît, c'est cet univers où tu es constamment. Voilà, tu peux pas timer seconde par seconde tes passages. Enfin, il y en a qui le font, mais enfin, moi, c'est pas du tout notre
Guillaume
approche.
Lenné nous écoute.
Ouais, après, c'est vrai que quand tu fais un parcours qui change pas et des conditions qui sont assez similaires, je pense que. Bah, je pense que c'est un réel avantage. Mais après, ouais, sur l'œuvre globale, je veux dire l'œuvre globale de l'approche trail running, voilà, on est quand même pas mal dans des choses empiriques et des choses Voilà, c'est subjectif au final, hein. Chacun va trouver un petit peu sa recette et puis il y a l'aspect confiance. Voilà. Ta confiance en cet entraînement que tu as fait, cette préparation que tu as fait qui a marché. Bon, même si ce n'est pas optimisé, voilà, ça te donne confiance, tu as l'impression que tu progresses, etc. Bon, ben voilà, c'est une recette, quoi, on va dire.
Il y a une phrase que j'aime bien et qui, je sais plus qui l'a dit. On va dire que c'est nous. Ce soir, c'est notre phrase.
C'est
qui dit
ça.
c'est vrai en pratique, mais c'est faux en théorie. Tu vois, donc c'est l'idée où en fait dans les livres chez les coachs, personne n'a jamais vu cette pratique que tu fais et qui marche pour toi. Personne n'a jamais prouvé. Toutes les études prouvent même que ça ne fonctionne pas en théorie, mais pour
Voilà.
toi ça fonctionne. Et est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut continuer? C'est souvent la question que se posent les gens quand ils commencent une préparation pour un objectif.
Ouais, non, c'est clair que je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai que voilà, la théorie surtout en trail, bon, je pense que maintenant il y a de plus en plus d'études qui sont en train de se développer autour du trail, essayer de voir à plusieurs niveaux, je sais pas, au niveau des appuis, au niveau de la nutrition, etc. Mais c'est vrai que ça reste encore bah, il reste encore beaucoup de choses à découvrir et je pense qu'on les découvrira toutes jamais. Hein. Ça reste une discipline en pleine nature avec des distances un peu débiles. Enfin, ça reste vraiment des choses qui sont poussées à l'extrême, donc c'est compliqué de comprendre quand on voit déjà qu'on a du mal à comprendre des sports qui sont très très cadrés. Voilà, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et après, ouais, je pense que ça, chacun est un peu autodidacte. Ce qui est important, c'est de se remettre en question bah, au jour le jour, quoi. Essayer de voir ce qui marche et surtout essayer d'approcher le trail running comme une énorme palette, quoi, et où tu as plein de curseurs, quoi. Tu as la vitesse en montée, la vitesse en descente, la technicité, la nutrition, le mental, enfin. C'est vraiment hyper vaste. Alors, en plus, quand tu rentres dans le domaine de l'ultra, il y a la nutrition, il y a le sommeil, enfin, c'est très vaste et c'est ça qui est intéressant parce que chaque année, tu peux te concentrer sur deux, trois paramètres et essayer de les améliorer petit à petit. Et du coup, c'est super intéressant.
Ça me permet d'enchaîner avec une question qui revient souvent quand j'échange avec des athlètes élites. Et là, celle-ci, c'est Laurent qui nous la pose. Est-ce que tu vis du trail et comment est-ce que, si c'est le cas, tu fais?
Oui, alors bah, à la base, bah, moi j'ai commencé en gros, j'étais en sport-études au lycée, bah, comme je te disais, en standard avant de prendre l'antenne, que du coup bah, je faisais du vélo, donc je commençais par le VTT, cross-country. Et ensuite la route où j'étais justement en sport-études. Donc la plupart des jours, je crois que c'était 3 jours sur 5, 4 jours sur 5, on s'entraînait en fait pour faire du vélo. Et en parallèle, bah, j'ai accédé au niveau D1, qui est le plus haut niveau amateur. Donc là, c'est la frontière où tu commences à être plus ou moins payé pour faire du sport sans que tu sois dans le milieu professionnel. Donc là, c'était vraiment mon objectif à l'époque et donc je me suis blessé. Et donc en parallèle, j'ai continué ensuite à faire mes études de géologie. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en géologie. Et puis le déclic a été que je me suis inscrit à l'OCC. Au final, j'ai fini troisième. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais assez loin du premier. Mais du coup, je me suis dit, oh, bah, tiens, pour le trail, peut-être que je peux faire quelque chose. Du coup, ça c'est parti de là. Donc pendant 2-3 ans, j'ai travaillé pour Innovate dans le secteur marketing en France. Et donc là, voilà, j'avais du temps pour faire du running et bon bah du temps pour et du temps à travailler. Et ensuite en 2018, on a signé avec Cathy, avec On. Et là, depuis ce moment-là, on va dire que alors chaque année, j'essaie de me libérer un peu plus de temps pour ma pratique. Et on va dire que ouais, voilà, sur la fin de du du secteur ou du moment où j'ai travaillé pour Innovate et la transition vers One, voilà, ça a été un petit peu vraiment progressif où j'ai essayé de libérer à chaque fois du temps. Je me dis, ok, bon, je gagne cette quantité d'argent, bon, ben, ok, je me libère plus de temps. Voilà, petit à petit, de toute façon, physiquement, je pouvais pas me mettre de 0 à 100, tu vois, ça marchait
Mmh,
pas.
bien sûr.
Sinon, j'allais tout casser, me blesser. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à construire ce truc. Et voilà, ouais, depuis 2017-2018, ouais, je vis du trail, hein,
Ah, j'ai fait un
avec
sondage,
Cathy.
on dit try.
Ouais, on dit trail en France. Hein.
J'ai
Ok.
fait un sondage.
D'accord, ok. Et du coup, voilà, ouais, avec Cathy, on vit de ça. Elle est en train de finir sa thèse, comme je disais tout à l'heure, elle aura fini à peu près à mi-année de 2021.
D'accord. Ok, bah c'est chouette. Ça commence à venir quoi, du coup que les marques enfin, aident les trailers à pouvoir vivre de leur passion. Donc c'est quand même super chouette que tu puisses accéder à ça. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est que y a un moment, il y a une case là, on l'a pas, c'est que tu es passé d'être en souffrance sur 20 km à troisième sur l'OCC. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Comment t'as fait?
Ouais, il s'est passé 4 ans au moins, tu vois, parce qu'on
Ouais.
passait de 2011 à 2015. Ouais, durant ces 4 ans, bah, alors ouais, bah, j'ai commencé bah, justement avec mes coachs. Bon, là, ils m'ont fait venir, ils m'ont regardé courir sur le plat et du coup, ils ont éclaté de rire, quoi. Ils ont dit d'accord, ouais, d'accord, là, ça va pas du tout, quoi.
Y a du taf.
Ouais, il y a du taf. Donc au début, ouais, voilà, je faisais assez peu de course à pied et je faisais du vélo, un peu de natation. Et voilà, j'essayais d'augmenter le volume petit à petit, pas que je me blesse. Et j'ai beaucoup travaillé sur la foulée parce que je savais pas courir en fait. En courir dans le terme technique, en fait. La course à pied, c'est un sport hyper technique, mais ça n'en a pas l'air. Je fais souvent l'analogie avec l'escalade, quand tu grimpes. Bon, ben, si t'as pas la technique, tu fais 2 mètres et tu peux plus aller plus haut. Tandis qu'en course à pied, tu peux courir longtemps, mais très mal et te blesser. Donc, voilà, j'ai passé du temps à essayer d'avoir une foulée hein, qui n'est pas optimale aujourd'hui, mais qui est mieux que ce qu'elle n'était avant. Et donc, voilà, petit à petit, ben, je me suis mis à faire plus long, à essayer d'optimiser ces choses-là. Et l'OCC, c'était quand même ma plus longue course. Hein. Avant, j'avais fait que 30 bornes. C'était le bout du monde, quoi. Mais il s'avère que voilà, j'ai fait une course assez régulière et progressive et demain ça a un peu bâché. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un petit peu là par hasard et je dis ok, bon. Et du coup, ça l'a fait
Si vous me laissez la place, je la prends.
quoi. Ouais, exactement, voilà. Bon.
Ok, donc grosse surprise pour toi, mais ça a été quand même une progression progressive où il y a eu un moment où, enfin, tu as commencé à performer et ça a été un peu brutal.
Non, c'est pas vraiment brutal. Hein. Comme je te dis, j'ai du mal à vraiment sauter des échelons ou passer des caps de façon très brutale. C'est toujours progressif. Les choses sont lentes. Ça met du temps à se connecter. Enfin, ouais, c'est vraiment pas mal de travail au quotidien. Mais ça me plaît. Hein. Honnêtement, moi, j'adore l'entraînement. J'adore m'entraîner, me questionner. C'est vraiment le cœur de ma pratique. C'est vraiment ça, j'adore l'entraînement, j'adore savoir qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer certains points. Et donc, ouais, c'est toujours vraiment des micro-déblocages petit à petit. Et du coup, ça arrive à la fin, à des plus gros caps, mais c'est vraiment progressif. Hein, c'est pas, enfin, j'ai rarement passé des marches comme ça, quoi.
Ok, ça marche. Alors on revient justement sur le fait de ta participation, non, de ton partenariat avec On. Récemment, on a eu Xavier Thévenard aussi qui a rejoint la team. Est-ce que Jocelyn souhaiterait savoir si vous avez des projets ensemble?
Bah,
Nous
écoute,
révéler?
non, apparemment, pour l'instant, non. Après, honnêtement, je connais pas peu Xavier. On s'est croisé sur quelques courses. Voilà, on se côtoie, on se respecte, mais j'ai jamais vraiment eu une conversation, on va dire, longue de plus de 2 minutes avec Xavier. Hein. voilà, on s'entrecroise, hein, et ce sera peut-être l'occasion de se croiser plus sérieusement et de travailler sur certaines choses ensemble. Mais voilà, c'est très récent, donc du coup, on n'a pas trop de projections à venir.
Ok, ça marche. Alors, la semaine dernière, j'ai eu un échange avec Cécile Bertin qui me parlait de la Transrockies. Et justement, il y a Grégory qui demande quelle expérience retiens-tu de la Transrockies course en étapes que tu as fait avec Cathy? Donc, Cathy qui est ta femme, que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas.
Exactement. Je suis pas encore marié, donc
Pardon.
faut pas déconner
Ouais.
quoi. Ouais, parce qu'après, enfin bref, après je vais être obligé. Ouais. Donc du coup,
Sera tous invités.
ouais, voilà, c'est ça. On fera une grosse fête avec du Patrick Sébastien derrière.
Et deux tables 2000.
La fiesta! Non, et du coup, on parlait de la Transrockies. Yeah. Alors, la Transrockies, c'était vraiment super sympa.
Ouais.
Parce que moi, c'était ma première course aux États-Unis. Bah, généralement, on essaye d'aller une fois aux États-Unis chaque année. Parce que bah, Cathy, pour voir sa famille, et du coup, on en profite pour. Bah, quand on fait des voyages, on essaye de rester un mois et demi. Du coup, quand on va aux États-Unis, on essaye de rester 1 ou 2 mois. Parce que ça fait sens, forcément. Ça serait un peu con de faire un aller-retour en une semaine. Du coup, bah, là, on était passé voir ses parents et du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va faire la Transrockies qui est une. Je crois que c'est 6 jours de course d'affilée. Et en gros, tu bivouaques tous les soirs. Bon, c'est pas toi qui transportes ton bivouac, hein, c'est eux qui te mettent tout en place. Et c'était notre première course en duo. Et non, on avait fait la pyramide à été avant. Et du coup, ouais, super expérience. Enfin, je pense que le trail running aux États-Unis est vraiment expérimenté. Les gens, ils sont vraiment super contents. Même au début, tu te demandes si c'est pas un peu faux, quoi. Parce que tu étais là en Europe où, bon, ben, les gens sont un peu plus froids. Et là, tu te retrouves aux US et ils disent amazing toutes les 2 secondes. Ils disent, wow, so cool, amazing, wow, so cool, wow. T'es là, tu dis, oui, bon, on a couru, quoi. Et du coup, ouais, ils s'enflamment toujours, quoi. Mais non, c'est super sympa. Il y a des feux de camp tous les soirs et la bouffe est vraiment très bonne. Une vraie expérience. Tu arrives avec ton duffel bag, là, tu le poses dans le camion et il t'emmène 6 jours. 6 jours. Ouais, après, le truc qui est dur, c'est que nous, en tant qu'Européens, on est vraiment des hommes de basse altitude. Parce que
D'accord.
là-bas, au Colorado, bon, bah, tu pars à 2500 mètres et tu passes à 3500. Et toute la semaine, tu cours là-dessus. Sauf que nous, quand tu es à 2500 mètres, tu es sur des terrains comme ça, généralement.
Oui.
Donc tu marches. Sauf que là, tu es à 2500 mètres comme ça.
D'accord.
Il faut que tu cours. Donc tu vois, tu es vachement en pulse et t'es là, tu dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, non, c'est juste l'altitude. Quand tu commences à être acclimaté, c'est fini, quoi. Donc du coup, tu te dis, il faudra revenir. Mais
D'accord.
super, super expérience.
Ok, mais c'est vrai que ça, pour avoir fait quelques échanges avec des trailers qui sont partis justement comme ça aux États-Unis, tout le monde passe ce message que c'est une ambiance vraiment très particulière. Et toi, tu l'as constaté sur toutes les courses que tu as fait aux États-Unis?
Ouais, c'est vraiment. Alors après, c'est très différent parce que nous, on a vraiment. On va dire, aux États-Unis, il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça, mais il y a très peu d'événements, pro en gros, très peu d'événements qui sont rentables et d'événements organisés vraiment professionnellement. Et nous, en Europe, c'est un peu le contraire. On a beaucoup de gros événements qui tournent bien et il y en a peu de pros. Donc après, ce qui est super marrant, c'est que du coup, bah, les organisations sont super simples, quoi. T'es vraiment. J'avais fait la Speed Goat il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est des courses qui résonnent, hein, quand on te dit la Speed Goat ou même quand on te dit Leadville, tu dis waouh, ouais, c'est des courses qui résonnent chez nous. Mais vraiment. Quand tu y vas sur place et d'un point de vue interne, c'est voilà, c'est beaucoup de bénévoles, c'est des gens qui sont passionnés, qui organisent ça, mais qui gagnent rien, quoi. Et du coup, tu as cette ambiance-là. Et c'est toujours limité parce qu'ils évoluent sur des terrains la plupart du temps privés. Ils sont limités à 150, 200, 200 par temps. Et c'est comme ça. Du coup, les gens, ils sont super contents parce qu'ils ont été plus ou moins sélectionnés. Et il y a toujours cette atmosphère vraiment simple où, ouais, il y a jamais de matos obligatoire la plupart du temps. Mais bon, par contre, après, les règles, c'est les règles, quoi. Si c'est écrit que tu dois pas avoir l'assistance, il n'y a pas d'assistance. C'est écrit que tu dois que boire de l'eau là. Enfin, ils sont super sharp sur des trucs, alors que tu évolues dans un monde qui est plutôt très associatif et très bénévole. Tu dis, ouais, c'est la fête. Mais les règles, c'est les règles. Après, c'est les US, c'est toujours pareil. Tu mets pas ton clignotant, tu te fais arrêter par le shérif, tu passes un mauvais quart d'heure, quoi. Mais
Toujours
voilà,
un petit.
c'est le contraste des US. Et voilà, c'était vraiment cette ambiance-là, et c'est super, super détente, quoi.
Ok, ça marche. Non, c'est intéressant parce que de voir les différentes cultures du trail comme ça, parce que ça, c'est vraiment un message qui revient souvent sur les États-Unis. Faudrait que j'explore comme ça les différentes cultures, même dans d'autres régions du monde. T'as eu l'occasion de constater ça, toi, dans peut-être d'autres régions où t'as eu l'occasion d'aller courir? Cette différence par rapport à la façon de voir le trail en France?
Ben ouais, le plus fréquent, c'était vraiment les US et la France. Après, moi, je suis pas trop allé en Asie. J'étais pas du tout allé en Asie. Je suis allé pas mal chez les Anglais, aussi en Islande, dans les pays nordiques. Après, oui, il y a moins. C'est vrai que les US, il y a quand même pas mal de sol, enfin d'atmosphère autour de la course, et c'est très axé running des US, hein. C'est vraiment les bâtons, enfin c'est très axé course à pied. Ça vient plutôt du monde de l'ultra running route qui transfère sur les trails. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont très vraiment light. Ils sont toujours en train de regarder leur pace et tout. Enfin, nous, quand on est dans les Alpes, les pace, on est en train de monter, on est à 15 minutes au kilomètre, on regarde pas trop, quoi. Mais eux, ils sont toujours en train de regarder ça, et c'est intéressant. Après, les pays nordiques, c'est un peu plus froid, quoi. C'est pas, tu retrouves pas une ambiance vraiment folle. En Angleterre, j'avais bien aimé le fell running. C'est pas mal aussi comme esprit, quoi. C'est vraiment courir dans la boue, sans aucun matos, avec un débardeur, avec des crampons. Et ouais, c'était aussi un esprit assez sympa, quoi.
Ok, c'est intéressant ça de voir comme ça, je trouve, les différentes façons de voir le trail, parce que nous, on est un peu français, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui existons, mais en fait, il y a plein d'autres façons de vivre le trail, et c'est intéressant de voir que bon, il n'y a pas que notre pratique qui existe. Merci pour ton partage. Est-ce que tu as réussi à te faire un calendrier 2021? Parce que c'est vrai que l'année 2020 et 2021 sont des années un petit peu particulières, on monte beaucoup de projets, on n'est pas sûr que ça va se faire. Comment est-ce que toi tu vis cette période et comment est-ce que tu le vis pour le futur?
Alors pour 2021, oui, bah, calendrier, on peut toujours le faire.
Oui!
Après, il faudra voir ce qui a lieu ou pas. Comme l'année dernière, on voulait retourner à Madère. Bah, je pense très honnêtement que nous n'allons pas y aller. Et ouais, mi-avril, ouais. Surtout que là, que le Portugal est vraiment, je crois qu'en zone, je sais pas s'il y a des couleurs, mais ce serait plutôt rouge. Et ensuite, ben, on veut faire le Lavaredo. Et on est inscrit à l'UTMB. Après, voilà, hein, on ira peut-être au coup par coup. Enfin, on ira sur ce qui se passe, quoi, sur les. Il faut s'adapter, quoi. Du coup, voilà, on s'entraîne à la maison, on essaye de, comme je te dis, de profiter de ces périodes off pour justement bah, essayer de s'améliorer dans les points qui nous demandent plus d'entraînement et plus de temps bah, pour s'améliorer. Du coup, bah, voilà, on essaye de vraiment mettre le crescendo là-dessus en attendant que quelque chose se déverrouille et que quelque chose ait lieu. Mais c'est vrai que oui, on a quand même envie de courir, ouais. Oui.
On en veut.
Non, mais c'est vrai que oui, surtout en ultra, on n'a pas eu trop là. Les courses qui ont pu avoir lieu l'an passé, ça a été peu des ultras, parce que c'est quand même plus compliqué avec le contexte. Nous, on a réussi à faire l'UTCAP dans le Mercantour. On avait hésité avec la belle échappée, l'échappée belle, voilà,
C'est
c'est ça.
belle.
Et parce que ça serait vraiment sympa à faire. Mais du coup, ben voilà, on espère que quelques-unes auront lieu et on y sera, quoi.
Je me souviens de ta vidéo, enfin la vidéo de Bastien à l'arrivée de l'UTCAM où tu avais coincé ton bâton.
Ouais, première course avec les bâtons, parce qu'avant je pensais que les bâtons, oh, j'étais présomptueux, je disais les bâtons, c'est pour le ski, quoi. Ça sert à rien. Mais en fait, j'ai vu que c'était pas mal et que ça m'économisait pas mal les jambes. Du coup, je me suis dit que j'allais tester sur l'UTCAM. Mais bon, voilà, il y a encore quelques petits réglages, comme tu l'as souligné.
Elle a fait un bon montage d'ailleurs, ça peut être retrouvable assez facilement ça, en tapant bâton Germain Granger sur
C'est clair, c'était bien marrant.
Ok, cool. Tu dis on à chaque fois que tu parles d'un projet que tu vas faire sur l'année 2021. Est-ce que toutes les courses que tu fais, tu les fais avec Cathy?
La plupart des courses qu'on fait, ouais, on a une pratique on est un petit peu motivé par. Y a pas énormément de courses qui nous motivent, on va dire d'ultra qui nous motivent, il y en a quelques-unes. Donc c'est vrai qu'on essaye de les sélectionner, de les targeter ensemble pour vivre quelque chose ensemble. Et c'est généralement aussi l'occasion, comme je te dis, alors comme si c'est aux États-Unis, de passer voir la famille et de planifier plutôt un voyage. Et si c'est en Europe, là, cet été, on a fait un projet entre Servigna et Chamonix. Et du coup, voilà, on est resté 1 mois et demi avant dans la région. Et c'est l'occasion de reconnaître les passages et aussi de voyager, de partager ces choses-là. Et si on va dans les Dolomites, c'est un petit peu la même idée, hein. C'est pour visiter l'endroit, même si moi j'aimerais bien y retourner l'hiver aussi. Mais voilà, c'est pas uniquement de faire un stop and go, quoi. C'est vraiment de se poser sur l'endroit. Bon, Chamonix, on connaît forcément, mais les autres, voilà, Madère, on adore. L'autre fois, on était resté plus de peut-être presque 3 semaines. Et, ouais, c'est pour essayer de profiter du fait que, comme tu l'as dit, on vit de ça. Et du coup, on n'a pas de contraintes, on n'a pas d'enfants, donc voilà, on allie l'utile à l'agréable.
Ah, c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça sa passion avec sa femme, enfin sa future femme peut-être, dans son couple comme ça. C'est vrai que c'est un problème qui revient souvent hein, quand on écoute les trailers qui disent que bah, il faut qu'ils, quand ils vont s'entraîner, ils peuvent pas trop y aller parce que sinon c'est du temps qu'ils passent pas en famille, etc. Et bah, de pouvoir conjuguer les deux, c'est vraiment chouette pour vous de pouvoir le faire comme ça. C'est un
Ouais,
problème en
c'est clair.
moins.
Ouais, après, c'est pas non plus tous les jours facile, puisque ouais, il y a d'autres contraintes qui se posent, mais bon, après, bon, on va pas se plaindre, ça va. Ah
Alors, c'est quoi les contraintes? On veut savoir.
merde. Non,
C'est vrai, parce que ça, sur le papier, en fait, ça paraît idéal, en fait, de partager sa passion, de pouvoir aller courir ensemble, etc. Et pas d'avoir quelqu'un qui dit, ouais, t'es toujours parti aller courir le dimanche matin ou quoi. Et du coup, faut aussi présenter les inconvénients. S'il y en a.
Ouais, les inconvénients, au final, c'est que des fois, ta pratique, c'est un peu un exutoire où tu te dis, bon, là, je vais me retrouver tout seul, etc. Au final, on partage beaucoup d'entraînements et on partage notre vie aussi. Donc, c'est super sympa des fois de les partager. Mais des fois, tu as juste envie d'être tout seul et de vivre quelque chose plus tout seul. Donc, il faut trouver ce bon équilibre. Des fois, Cathy ne veut pas venir avec moi parce qu'elle en a marre que je sois un peu tout le temps devant. c'est pas aussi très très évident à vivre au jour le jour quand tu te sens pas super bien et que t'as l'autre devant qui fait des allers-retours et qui te dit ah, ça va, c'est beau, hein. Elle dit ouais, c'est beau, non mais ça suffit. Ou moi des fois où j'ai pas envie d'attendre, par exemple, voilà, c'est toujours pareil, c'est le fait de la répétition qui au final te dit bon ben j'ai envie d'aller skier, j'ai envie de descendre, j'ai pas envie d'attendre 5 minutes Cathy qui est en train de descendre. Voilà, c'est pas parce que t'as pas envie d'attendre, mais c'est le fait que c'est un événement qui se répète au bout d'un moment. Ben voilà, c'est comme ton travail au bout d'un moment tous les jours, c'est bien, mais au bout d'un moment, ben, ça reste ton travail. Donc ben, c'est pareil, il suffit juste de trouver l'équilibre. Tu vas de temps en temps tout seul et du coup, tu es super content de partager d'autres moments ensemble. Donc, c'est toute cette histoire d'équilibre. Il faut que voilà, mon équilibre soit celui soit le mien et celui de Cathy soit le sien. Et puis après, voilà, la mayonnaise prend. Mais
Bien sûr.
oui, voilà, après, c'est des détails. C'est sûr que c'est plus facile le dimanche matin de partir 6 heures et de se dire qu'on va pas rater le repas de famille, quoi.
Le poulet
Forcément.
frites.
Voilà, le poulet frites mayo, quoi.
Le fameux. On en redemande.
Voilà.
Ok, ça marche. Justement, en parlant un petit peu de ton entraînement, tu nous parles que tu fais un petit peu de ski, bah surtout en cette période. J'imagine que chez vous, ça doit y aller, hein. J'ai vu quelques vidéos que tu nous partages assez régulièrement sur. Attention, t'as un stylo qui est tombé, je crois.
Ouais, je me suis fait attaquer. Est-ce que je
Et
prends des notes?
voilà.
Ouais,
Tu auras
vas-y,
entendu
dis-moi,
après. Les gens qui écoutent en podcast, ils vont rien comprendre. Je suis désolé.
Ouais.
Quelle séance est-ce que tu détestes le plus effectuer? Demande Jean-François.
quelle séance je déteste le plus effectuer? J'aime pas trop courir à jeun.
Et tu le fais du coup? Tu le fais quand même ou...
Ouais, parce que comme j'aime pas, je le fais. Parce
Ah
que je
ouais.
me dis que c'est bien, tu vois. Il faut que
Ok.
je fasse des trucs que j'aime pas. Non, généralement, j'aime bien faire des trucs que j'aime pas. C'est pas mon côté sadique, mais si en fait j'aime pas, je me dis que c'est pas mal que je me force à faire ces choses-là. C'est comme au début, en fait, j'aimais pas trop courir sur le plat, même pas du tout. Moi, je disais toujours un peu comme tout le monde, ah, le plat, le trail, ça sert à rien, machin truc. Mais en fait, ouais, petit à petit, j'en ai fait et là, j'adore en fait. On est dans un groupe avec Cathy, on est dans un club à Nice d'athlés. Mais je suis refait quoi. Quand je fais des séances avec eux, ça me plaît. Je me tourne la piste, j'aurais jamais cru quoi. Et ouais, donc quand les gens me disent, ouais, oh, tu veux descendre faire. Parce que descendre, en fait, nous, comme on est dans les montagnes, on descend pour aller à la piste. Mais non, ça me plaît en fait et ça m'apporte. Donc ouais, au début, j'aime bien faire des trucs qui me plaisent pas et au final les tourner en choses que j'apprécie. Donc ouais, au début, j'aimais pas trop courir à jeun parce que j'étais assez rouillé en fait quand je sortais du lit. En fait, j'ai toujours 20 à 25 minutes où il faut que je me dérouille et tout et c'est pas très agréable. Mais voilà, j'ai appris à l'apprivoiser et ça va de mieux en mieux. Donc après, non, j'aime bien un peu tout, mais sinon la raquette, j'aime pas trop, quoi. C'est tout, quoi.
La raquette marche avec des raquettes, pas faire des sports de raquettes,
Ouais,
on est d'accord.
j'aime pas du tout. Hein. J'ai un problème. J'aime pas la raquette.
Un blocage.
Voilà, j'aime pas la raquette. Et
Okay.
les gens qui dans ma trace de ski, eh ben ils montent en raquette. Du coup, ils explosent. Du coup, ça m'énerve.
Ça,
J'aime
c'est
pas la
comme
raquette.
piquer la vague à un surfeur, quoi. C'est des trucs qui se font pas.
Ouais, alors surtout, non, 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 j'aime pas la raquette. Pas déconner. Déconner, mais pas avec la raquette. Pas déconner.
Ok, alors justement, comment est-ce que tu fais mentalement? Est-ce que tu as des techniques que tu t'appliques à toi-même pour justement faire les choses comme ça que tu n'as pas envie? Tu vois, on connaît tous ce moment, on rentre du boulot le soir, on a passé une journée, je sais pas, peut-être au bureau un peu compliqué, on n'a pas envie d'aller courir encore une fois, enfin voilà, on a juste envie d'être peinard, se mettre devant la télé. Est-ce que toi, tu as ces moments-là et comment est-ce que tu fais si tu as des techniques pour quand même y aller t'entraîner?
Ouais, je vois bien ce que tu dis.
Validé.
Alors, alors ouais, bah alors, généralement, bon, bah, le truc, c'est qu'il faut savoir si est-ce que tu es vraiment fatigué ou est-ce que tu as un poil dans la main. Donc ça, c'est ouais, ça, c'est important d'essayer de prendre du recul et de mettre en perspective. Ben voilà, c'est parce que si tu es vraiment fatigué, bon, ça sert à rien. Et puis bon, si tu as un poil dans la main, généralement, au bout de 15-20 minutes, ça se passe mieux. Donc moi, ce que je fais, c'est que bon, voilà, j'y vais quoi qu'il arrive. Je fais mon échauffement et puis voilà, j'avise. Si je sens que je suis vraiment fatigué, bon, ben, je continue, je fais un footing et je rentre. Hein. Des fois, il y a des séances qui tombent à l'eau et qui sont reportées 2 jours après. Je pense que sur des séances dures, c'est important de quand le travail n'est pas axé sur la fatigue. Bah, d'être vraiment en forme et de pouvoir pousser quoi. Donc la plupart du temps, bah, voilà. Si j'ai du mal à démarrer, je mets un petit peu de musique, je danse un petit peu, tu vois, j'aime bien le zouk. Hein.
Zumba. C'est très à la mode d'ailleurs ça, il y a beaucoup de cours de Zumba avant les... Quand,
ah ouais, là.
Pour l'échauffement.
La Zumba, c'est le sport national maintenant. Ah oui, ouais, la Zumba, ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est incontournable là maintenant. Si tu n'as pas fait de la Zumba le mardi soir, c'est pas normal quoi. Non, mais honnêtement, moi j'aime bien mettre un petit peu de musique quand j'ai du mal à me chauffer. Tu vois, je m'imagine un petit peu en concert. Tu vois.
Ok.
Non, je rigole. Ouais, non, mais oui, je vois bien le moment où tu es là. Tu sais pas pourquoi tu dois partir courir, mais tu te mets à balayer ton salon, tu sais. Tu vois ce moment-là, tu fais que des trucs que tu n'aurais jamais fait normalement. Mmh. Tu dis, oh là, ça c'est ça, non, je vais le laver. Non, ben non. Non, non, en fait, il faut que tu ailles courir. Là. Mais du coup, tu laves tout et puis après, tu vas courir beaucoup trop tard.
Voilà. Mais c'est bien. Il est trop tard, je peux y aller maintenant.
Voilà, c'est le couvre-feu. Ah, merde. Mais bon, c'est propre.
Ok. Ça marche. Donc, ouais, se forcer et puis aviser, quoi.
Ouais, voilà, généralement, oui, c'est parce que t'as vraiment besoin d'un coup de pied au cul, quoi, en gros. Et puis, ouais, voilà, il faut vraiment aviser, c'est super important, surtout en trail, quoi, c'est cet auto-feeling, quoi, d'essayer de voir, je veux dire, celui qui est vraiment qui performe en trail, hein, je veux dire, par rapport à ses propres attentes, hein, par rapport à ce que tu veux faire. Bah, c'est celui qui se connaît vraiment bien, quoi. Si tu arrives à identifier les moments où tu as besoin de ça ou ça, ou les moments où il faut que tu ailles t'entraîner, les moments où, bah, ok, tu es bon en endurance, il va falloir que tu fasses un peu plus d'intensité, etc. Voilà, c'est vraiment la connaissance de soi, hein. Surtout en ultra. Alors là, si tu arrives à apprivoiser rapidement. Qui tu es, comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin, ce qui marche pour toi, et pas seulement en course, hein, à l'entraînement, ben là c'est là où c'est super intéressant parce que tu es en constante adaptation et en constante amélioration à propos de toi-même, quoi. Donc ça c'est vraiment un super développement personnel. Enfin, moi c'est comme ça que je conçois aussi l'activité, quoi.
Mais alors toi qui justement as fait d'autres un petit peu d'autres sports comme le vélo, le ski, etc. Est-ce que tu trouves que le trail c'est le sport de prédilection pour pouvoir se connaître de façon générale parce que j'en ai pas trouvé d'autres sports qui te permettent d'avoir une connaissance de toi aussi poussée.
Alors je pense que ça c'est un petit peu typique des sports d'ultra endurance. À mon avis, c'est vrai que sur des formats entre, je veux dire, sous les 10 heures, tu arrives généralement à plus ou moins prévoir ce qui va se passer, mais que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en course, voilà, tu bascules pas vraiment dans cet état où, bon, ben, voilà, c'est l'inconnu et comment tu vas réagir, etc. Même si bon, le plus souvent tu fais de l'extra long, le plus souvent tu te connais. Mais il y a toujours, même chez les athlètes les plus forts, il y a toujours, au départ d'un ultra, il y a toujours de l'appréhension, quoi. Il y a toujours de l'incertitude. Et de ce point de vue-là, oui, c'est clairement, bah, j'ai jamais fait du. Enfin, maintenant que je fais de l'ultra, si c'est sûr que j'ai fait des séances de vélo ou des espèces de défis de vélo qui ont duré super longtemps et que tu te retrouves dans le même état. Et après, oui, j'ai envie de dire, même là, ceux qui sont vraiment très bons là-dedans, c'est les montagnards, les alpinistes, c'est des. Là, c'est encore un autre niveau. Enfin, on va dire que nous, on n'est pas des rigolos à côté, mais si, parce que eux, ils font des journées qui sont complètement énormes. Alors, la dépense énergétique est pas la même, puisqu'ils sont pas en mouvement aussi rapide que nous. Mais voilà, c'est des gens qui vont partir pour 48 heures en montagne avec deux bananes et deux barres, quoi. Et là, tu dis ouais. Là, tu dis ils vont dormir à un bivouac sur une falaise, quoi. Donc ouais, moi j'aime bien écouter ces récits-là et c'est super intéressant parce que tu dis voilà, moi j'ai des amis qui vont en montagne, qui me disent ah, moi je prends une barre tous les 4 heures, tu pensais bien. Oui. Après, le corps s'adapte à ce que tu manges, hein, mais c'est super inspirant, quoi. Parce qu'ils sont dans la contrainte où ben, ils ne doivent pas porter trop de poids, ils préfèrent porter un duvet en plus. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Et je pense que dans ces disciplines-là, tu vas encore vraiment plus loin, quoi. Parce que là, tu es dans des éléments vraiment extrêmes, dans des altitudes extrêmes, dans une technicité qui est extrême. T'as pas beaucoup à manger, très peu à boire, et là, je pense que c'est quand même un autre niveau, quoi.
D'ailleurs, au début du trail, de l'histoire du trail, quand les premières personnes comme ça ont commencé à parcourir des sentiers montagnards en courant, le trailer était assez mal vu par les montagnards, les purs et durs. Qu'en est-il maintenant? Est-ce que y a une espèce de guéguerre un peu? Ou moi, en tant que breton, je connais pas ça parce que nous, c'est 385 mètres le plus haut sommet de Bretagne. Pas de conflit à ce niveau-là. T'entends bien avec
Avec
les autres bretons.
ou sans oxygène, ça
Ça
fera à
passe.
voir, quoi. Bah, il y a toujours cette pas cette guéguerre, mais cette confrontation où en fait voilà, le milieu de la montagne, que ce soit des guides ou etc., c'est vrai que c'est des gens qui sont bah, tout le temps, d'un point de vue sécurité, vraiment au top, quoi. Ils ont toujours le coup d'avance, quoi. Tout ce qui va se passer, il y a forcément une solution de secours. Alors, c'est vrai que bah, quand tu vas en montagne et que tu es plutôt, on va dire, d'un point de vue alpiniste, en mode light, et d'un point de vue trailer en mode oversize, puisque tu as pris plus de couches, tu as pris plus des crampons, du matériel que tu prends pas forcément quand tu fais une sortie classique. C'est vrai que voilà, il y a toujours cette confrontation où voilà, il y a cette prise de rythme, hein, le fast and light, comme tu dis, il y a cette prise de risque où alors tu t'exposes moins longtemps, puisque tu es censé aller plus vite. Mais voilà, la prise de risque, elle est quand même beaucoup plus haute. Mais le temps d'exposition, il est plus bas. Voilà. Donc c'est toujours l'histoire de compromis, quoi. Et puis il faut faire des choix. Tu sais que si tu vas tomber dans une crevasse et que tu es tout seul, bon ben voilà.
Fin de l'histoire.
Voilà, fin d'histoire. Ou si tu ripes parce que tu as pris des baskets et que voilà, il faut partir en connaissance de cause et surtout, bah, voilà, quand tu fais des choses comme ça, il faut soit avoir une grosse connaissance du milieu. Et généralement, les choses qui sont médiatisées, ces exploits un peu en haute montagne par rapport au niveau d'évolution des trailers, qui est plutôt un peu plus basse montagne, bah, c'est souvent médiatisé, mais on voit très peu le travail qui est en amont, en fait. Et c'est là où c'est néfaste. Bon, tout le travail qui est en amont, on ne le voit pas. Et c'est un travail qui est énorme. Voilà. Bon, excuse-moi, il y a Siri qui s'est développé. Et du coup, ouais, voilà, il y a tout ce travail où il y a une recherche des conditions, il y a une recherche de l'itinéraire, tout a été planifié. Il y a même des records où il y a des gens qui ont fait la trace avant, des gens qui ont fait des traces au piolet. Et ça, on ne le voit pas. Donc du coup, c'est vrai que pour le trailer lambda, c'est quelque chose qu'il faut prendre en cause quand tu vas faire justement quand tu vas faire ce genre de choses, quoi. Il y a tout, okay. Il y a un gros travail de préparation, quoi.
Non, c'est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai que bon, le Mont Blanc, par exemple, pour citer que lui, parce que c'est le plus connu, mais c'est vrai que c'est assez maintenant c'est assez accessible d'y aller en mode alpinisme avec un guide. Enfin voilà, ça se fait. Et ça, c'est vrai que c'est tentant hein, de toujours aller chercher le petit truc en plus, le petit risque et de faire l'aller-retour rapidement. Maintenant, perso, j'ai prévu de le faire cette année et ce sera avec un guide. Hein. C'est bon. Ok, donc c'est bien de rappeler justement que les gens qui font ça, c'est des gens qui sont aguerris et qui ne sont pas tout seuls souvent à préparer ce genre d'épreuve. Ok, il y a Julien qui nous demande si, vu la situation actuelle, et encore incertaine pour les mois à venir, que penses-tu des trails en off, pour ou contre? Est-ce que tu pratiques le off?
Ouais, alors off, tous les jours, forcément. Les jours, on est tous les jours off, forcément. Mais oui, carrément, oui. Non. Moi, je suis complètement pour ce genre de défi, on va dire. Le défi, il est de l'autre côté de ta porte ou de l'autre côté de ta fenêtre. Et oui, j'encourage tous les gens à se poser sur la carte autour de chez eux. La plupart du temps, on a plein d'endroits autour de chez nous qu'on ne connaît pas, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Moi, autour de chez nous, il y a plein de montagnes, mais t'as vu le stylo? Mais du coup, c'est vrai qu'on passe rarement de l'autre côté de la montagne. Tu vois, t'es un petit peu on va dire comme la faune, tu vois, t'as tes quartiers, quoi, tu restes un petit peu toujours autour. Mmh. Et j'ai envie de dire que actuellement, c'est vraiment l'occasion pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et au jour le jour, j'aime bien faire ça. Je me dis, tiens, chaque jour, j'essaye de rajouter, que ce soit en ski ou autre, des portions de forêt où je ne suis pas allé, à un bout de couloir que je n'ai pas fait, un truc comme ça. Et ça me plaît vachement de me dire que, tiens, j'expands un petit peu le cercle de mes connaissances autour de moi. Et ouais, c'est super intéressant. Et oui, j'encourage bien sûr tout le monde à aller un peu plus loin et faire des nouveaux trucs. Puis de toute façon, c'est que comme ça que tu peux continuer à pratiquer, parce qu'à un moment, tu tombes dans une routine où tu fais toujours le même sentier ou la même descente. Et même si ce que tu découvres, c'est moins bien que ce que tu fais que d'habitude, t'es super content, quoi, parce que t'as fait un truc nouveau. Donc ouais, non, c'est carrément...
C'est vrai, hein. Enfin, moi, je n'arrête pas de le dire. Hein. Maintenant, cette année, peut-être l'année prochaine encore, c'est plan A, plan B, quoi. T'as prévu de faire ce trail là, ok, tu te prépares pour faire ce trail là. Si ce trail là ne peut pas se faire, au moins tu as prévu un plan B et potentiellement un off, quoi. Et potentiellement le même trajet que tu auras mis sur ta montre, et puis go, quoi. Donc,
ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'il faut même pas préparer vraiment quoi que ce soit, et juste maintenir un niveau de condition et un niveau de plaisir au quotidien. Voilà, tu peux avoir des axes de développement propres à toi qui t'intéressent. Mais je pense que préparer, c'est vraiment tomber dans la déception, quoi. Parce que tu vas préparer un truc, tu vas être déçu, tu vas préparer un autre truc, tu vas être déçu. Donc je pense qu'il faut, bien s'entraîner au quotidien et essayer de développer des axes personnels plutôt propres à toi. Et puis voilà, tu vois qu'il y a une course qui a lieu, tu y vas. Et puis tu prévois plutôt des trucs qui te font vibrer, quoi. Enfin, c'est ma vision, quoi.
Ouais, c'est une bonne vision, je pense, pour encore l'année 2020. Pour éviter d'être trop déçu sur cette année, malheureusement. Comptes-tu refaire des marathons dans le futur?
Des marathons? Eh bien, ouais, j'aurais aimé refaire un marathon cette année. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois, l'hiver, j'aime bien... on habite dans le haut du Mercantour, donc dans les Alpes-Maritimes, qui est un petit peu le premier bastion des Alpes, c'est les Alpes du Sud, avec Isola 2000, pas mal de sommets autour, sympa. Donc c'est vrai que nous, l'hiver, c'est soit ski, bon, le trail, c'est mort, hein, y a trop de neige, donc c'est soit ski, soit en cours sur le plat. Donc ça fait 2-3 ans, même un poil plus, mais bien 3 ans, qu'en gros, l'hiver, on alterne avec ski de rando et course à pied à plat, Donc on a un tapis maintenant, ce qui facilite pas mal la chose quand la route est enneigée. Et donc ouais, voilà, on fait soit du plat, soit du ski. Et du coup, c'est vrai qu'on s'amuse un petit peu à préparer des 10 km. Et l'an passé, je m'étais chauffé un petit peu pour faire un marathon, même si c'est vraiment pas facile de faire une prépa marathon en habitant entre 1500 et 2000 mètres, quoi. Donc du coup, pour faire ça vraiment sérieusement, faudrait s'y mettre et habiter plutôt autour de Nice, quoi. Mais ouais, c'était prévu d'en refaire un. Mais du coup, il n'y en a pas, quoi, à cette période-là. Donc du coup, alors soit je vais peut-être en faire un off avec peut-être Cathy qui fera le pacer sur le vélo, ou soit pas du tout. Donc je sais pas.
À voir, à voir.
Voilà, exactement, à
T'es à
voir.
combien au marathon pour info? Tu sais, tu connais ton
Mais
temps?
j'ai fait 2h29 l'an passé. Donc
Rien que
mais
ça.
bon, j'en ai vraiment chié à la fin. Et au bout de 30 bornes, tout le monde disait le mur du marathon. J'allais dire, oh, moi, le mur du marathon, j'ai déjà fait beaucoup plus long. Je le prendrai pas. Mais si, si. Mais
Pas.
c'est assez bizarre. Hein. Dans les jambes, ça fait vraiment bizarre. C'est le fait de répéter vraiment la même foulée. Tu te retrouves au bout de 30 bornes, tu dis, waouh, il en reste 12, c'est la fin du monde, quoi. 12, c'est énorme. Et là, t'es. Donc ouais, c'est super. Hein. J'aime bien faire des trucs que j'ai jamais fait. Et je m'étais bien pris au jeu, donc ouais, j'aimerais bien refaire. J'aime bien tout faire, ça me plaît. Courir, court, long, moyen.
Ok, 2,29, rien que ça. Bon, impeccable.
Bon, même, je sais pas c'est quoi le record du monde.
Bah, ça dépend si on compte le dopage technologique, l'assistance, etc. On est sous les 2 heures, sinon.
Ouais, en vrai, je crois, c'est quoi? C'est 2h02, 2h03? Non,
2,2,
2h01, 2h02.
Deux, je crois.
Ouais, voilà, ça fait 27 minutes quand même. Hein,
Il y
c'est
a une
la
marge de
moitié de cette
progression?
interview, quoi. Ça fait long quand même, tu vois, il y a le temps de parler quand même.
Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, ouais, ça fait long.
Ouais.
Bon, bah écoute, on arrive à la fin. Il y a quelques questions encore. Est-ce que tu as encore quelques minutes à nous accorder?
Mais bien sûr!
Allez, c'est parti. Donc la petite histoire qu'il va falloir que nous remettre dans le contexte, c'est Julie qui nous demande, peux-tu nous expliquer la stèle Johannstuck que vous aviez filmée en story avec Organic Coach? Alors, je ne connais pas l'histoire, donc si tu peux nous l'expliquer, ça me va bien.
Bon, Organic Coach, en gros, c'est mon coach, c'est aussi le coach de Johan, enfin, c'est Nicolas Lebrun, notre coach. Et du coup, en gros, Johan est très à l'aise sur les sentiers roulants, etc. Et Nicolas Lebrun habite à Digne, et en gros, derrière chez lui, il y a un sentier qui est assez infâme, plein de. Qui est très raide, plein de roches assez meubles. Alors, des fois, elles sont dures et des fois, elles sont meubles. Alors, tu sais jamais où mettre les pieds. Enfin, et entre des buissons qui piquent, enfin, un truc dégueulasse, quoi. Et du coup, il avait emmené Johan pour le tester là-dessus, sur une descente technique que Johan n'est pas trop, trop à l'aise sur des trucs dégueulasses comme ça. Et du coup, voilà, comme il avait super, super bien performé et aimé dans ce sentier, voilà. On a dit qu'au milieu, il y avait une espèce de cairn et on l'a appelé la stèle Johannstuck en mémorium à sa belle performance sur ce sentier. Du coup, quand j'y passe, à chaque fois, je fais allusion à Johan et sa stèle, quoi. C'est un petit peu comme les stèles qu'il y a dans les cols en vélo pour les champions qui ont fait des trucs. Du coup, voilà, c'est une boutade pour chambrer Johan et lui dire qu'il y a la stèle dans le sentier, quoi. Voilà.
Ok, ça marche. J'imagine bien la tronche à chaque fois qu'il passe devant.
C'est ça.
David qui nous demande si tu as une idole en trail. Qui est ton idole? Alors lui, c'est un peu question, mais toi, c'est qui?
Une idole en trail, je sais pas, j'aime bien. Le côté américain, j'aime bien Rob Krar. Alors,
Oh,
je sais pas si tu connais pas.
non.
Bon, ouais, c'est un gars qui parle pas trop, qui a une grosse barbe, il est vraiment focus. Il était vraiment performant il y a ouais, 6-7 ans où il a gagné plusieurs fois la Ligue de Ville, etc. Et ouais, j'aimais bien ce gars-là parce qu'il est, ouais, il est assez terre à terre, vraiment des fois très mystérieux en fait. C'est un gars que tu n'arrives pas trop à cerner. Après, c'est clair qu'après Kylian reste un idole. En fait, ce que j'aime bien, c'est Kylian, c'est sa polyvalence, quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans la construction, et c'est là que je trouve qu'il est super fort, quoi, dans cet aspect-là, d'être super fort sur du court, sur du long, sur n'importe où, quoi.
Bon,
Et après, pour le long, c'est vrai, François. Pardon?
Sur 100 km, on ne sait pas ce qu'il vaut. Sur 24 heures, pardon. 24
24 heures. Ah oui, je me disais, j'avais pas compris.
Ah, mais avec Jim Wesley qui fait 100 km, je m'y perds.
Ouais, c'est ça. Après, ouais, sur le long, c'est vrai que François est quelqu'un qui m'inspire de par sa décontraction. J'aime bien, il est simple,
François, François de la planète Trail.
François Hinault, bien sûr,
Ah,
ouais.
François
Oui, bien sûr.
Le fameux.
Le fameux,
Ah,
bien sûr, ouais.
c'est sûr que François, il est, enfin, François Dagne, il est impressionnant pour ça. Ça, tu as l'impression que tout est un petit peu facile, que ça déroule, quoi.
Ouais, même si ça l'est pas, hein, mais j'aime bien cette décontraction. En termes d'image, c'est agréable à voir. Ouais.
Ok, ça marche. Donc c'était Rob Krar, c'est ça?
Rob Crow, yeah.
Krar. Ça roule, j'irai voir ça.
Ouais.
Germain, où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures, tous tes projets, tout ce que tu nous partages, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça?
Bah chez Carrefour, au rayon librairie. Hein.
Ok. Il
Bon,
y a un bouquin qui
voilà.
est en cours d'écriture.
Non, mais pour être original, sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, j'ai un TikTok maintenant. J'ai créé un TikTok il y a une semaine.
Ah, bah, moi ça a duré une semaine, hein. Ça, pas plus.
Voilà. Parce que j'ai rencontré des gens très jeunes et ils m'ont dit, waouh, ouais, t'es pas sur TikTok? Je dis, bah non. Ils m'ont dit, mais il faut que tu sois sur TikTok. Du coup, ça m'a intrigué. Je suis allé sur TikTok. Et du coup, bon, bah, je suis pas très actif, hein, forcément. Mais voilà, c'était pour déconner. Mais non, ce nom sur Insta ou Instagram? Voilà, voilà, sur Instagram et à peu près.
Instagram, Facebook et ton site.
Voilà, après, oui, voilà. Après, voilà. Pas toujours
Okay.
très
Je mettrai
intéressant,
tous les liens,
mais
dans
voilà.
la description.
Ouais, voilà, tous les liens.
Voilà,
Tous.
tout. Je mettrai tout, même celui de Carrefour.
Voilà, Carrefour, Strava, tout.
Tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021?
Pas grand-chose, hein. Moi, je suis très très chanceux de ce qui se passe. Tous les jours, il y a de la bonne neige. Tous les jours, il fait bien beau. On est en vie, tout marche bien. Donc voilà, si les courses reprennent, c'est cool. Mais bon, après, voilà. Pour
Ok.
l'instant, tout va bien.
Ben, c'est un très très joli mot de la fin. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Germain, d'avoir participé à cette heure en notre compagnie. Merci beaucoup aussi à tout
Une
le
heure
monde d'avoir
six,
été.
par contre.
Pardon?
Sois précis, c'est pas 1 heure, c'est 1 heure 6. Hein.
1h06. 1h06. Bientôt
Voilà.
1h07.
Voilà.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé encore une fois dans les commentaires. On se retrouve mercredi prochain avec un nouvel invité, dont je vous dévoilerai dimanche prochain. Voilà, allez, à très très
Cool,
bientôt,
ça
bonne soirée,
marche. Il y a
bye
un jingle? Il y a un jingle là?
bye. Il n'y a pas
Non?
de jingle de fin, il n'y a que un
Ah
arrivé.
mince! Ok, bon, ça marche.
C'était le premier défi, là, il faut que je fasse un jingle de fin, du
Bah oui, ouais, un truc bien, quoi.
Tadam!
C'est ça.
Allez, ciao, ciao!
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.